Maintenant, je vais passer la parole. Ben, je vais inviter Nicolas Georges, directeur du livre, la lecture, et puis rejoindre Benoît Léniel pour parler de la transition écologique du point de vue des deux ministères, comment ils organisent l'évolution et entraînent un peu les ministères et puis l'ensemble des acteurs du livre de la lecture dans la transition écologique. Voilà, c'est à vous.
Est-ce que c'est bon ? Ah, oui, pour les deux ministères, je n'aurai pas cette prétention. Hein, vous m'accordez beaucoup de crédit. Mais notre collègue est là pour le dire du côté du ministère d'enseignement supérieur. Et quant au ministère de la culture, j'ai aussi des collègues qui sont dans la salle, donc il ne faut pas que je raconte n'importe quoi et que je sois très précis sur les messages à passer. Mais bien entendu, je dirais pour l'essentiel, quelques mots de ce que nous essayons de faire de manière résolue à notre niveau, néanmoins, du côté de la filière du livre, des bibliothèques, puisque c'est le thème de la journée aujourd'hui, et peut-être plus généralement également, puisque c'est aussi mon périmètre d'intervention, sur la filière économique du livre. Donc disons le livre en général, même si, pardonnez-moi, et moi aussi je cite la loi d'Arcos que j'ai largement écrite, les bibliothèques ne sont pas que des lieux du livre, je l'ai bien entendu, et nous sommes tout à fait d'accord. Première chose, comme tous les ministères, le ministère de la Culture a été... on a demandé, en tout cas la Première ministre a demandé à la ministre de la Culture de faire une feuille de route pour la transition écologique. Alors, c'est d'ailleurs un sujet, ce qu'on dit transition écologique, transition énergétique, c'est pas forcément la même chose, notre collègue nous l'a montré tout à l'heure. Transition écologique est beaucoup plus large, transition énergétique est un sujet plus directement opérationnel pour nous, dès le moment où nous devons mettre en place un certain nombre de stratégies dites bas carbone. Je reviendrai sur ce sujet-là, et bon, j'emploierai indifféremment les deux termes, même s'il me semble que, en tout cas, les pistes que nous avons vont plutôt dans le sens de la sobriété énergétique et dans le sens des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, qui peuvent avoir d'ailleurs d'autres conséquences et d'autres impacts tout à fait corrects. C'est voulu et nécessaire sur l'écologie et sur un certain nombre de problématiques écologiques en tant que telles. Alors le ministère a rendu sa feuille de route et il vient de la faire. Donc elle est disponible depuis quelques jours. Alors vous allez me dire, mais enfin vous avez pris votre temps hein, quand même pour le faire. C'est pas faux, les collègues sont là pour dire que ça leur a pris beaucoup de temps, beaucoup d'huile de coude en effet. Mais alors je n'ai pas vu la manière dont ça se faisait dans les autres ministères, mais c'est vrai que le ministère de la Culture, c'est un peu le ministère des exceptions. Hein, et les problématiques de transition énergétique venaient en quelque sorte percuter notre activité pratiquement à tous les stades et sur tous les sujets que nous traitons au ministère de la Culture. Alors cette stratégie décline un certain nombre de propositions dans cinq directions qui sont celles de notre périmètre d'intervention. La création, la conservation, le numérique, le patrimoine et les mobilités. Elle donne des idées, elle donne des inspirations, si je reprends le titre de cette stratégie. Pourquoi sommes-nous parfois difficilement à l'aise avec des problématiques de transition écologique ? Je parle de création. Et je parle de la création dans le domaine de l'édition aussi, qui est une partie de notre métier. Eh bien, on nous a dit que l'édition, c'était un métier de l'offre et qu'il fallait que le ministère de la Culture garantisse une vaste offre, le pluralisme de l'offre, le pluralisme des expressions et la grande variété et diversité culturelle. Eh bien, si on va là, ça arrive à un moment donné au constat qu'on publie trop, on produit trop et qu'il y a une forme de gâchis aujourd'hui dans cette économie qui est consubstantielle à celle d'une économie de l'offre et qui fait que pratiquement tous les ans maintenant, la rentrée littéraire est à la fois un moment où l'on se satisfait de la capacité de notre pays à produire des idées, des émotions, mais aussi à trop produire de livres, de titres, qui vont incontestablement arriver au fait qu'il n'y aura pas suffisamment de lecteurs et qu'on aura des déchets à produire. Je prends la question du patrimoine. Il y a du patrimoine dans les bibliothèques. Alors oui, il faut faire des immeubles, et nous avons 4 millions de mètres carrés à rénover. Hein. Alors, on ne connaît pas très bien leur état, d'ailleurs. Je pense d'ailleurs que même dans les bâtiments qu'on a créés récemment, tous ne sont pas nickel du point de vue des objectifs bas carbone. Parce que ces objectifs, et j'y reviendrai aussi, ne sont pas toujours si évidents à suivre et si transparents. Néanmoins, nous n'avons pas que des bibliothèques dans des immeubles modernes. Par ailleurs, nous avons un vaste périmètre d'intervention, de protection du patrimoine architectural. Et il n'est pas du tout évident de rendre ces bâtiments-là efficients du point de vue du bas carbone, de la stratégie bas carbone, sans porter atteinte à leur intégrité. Et donc l'articulation entre la préservation du patrimoine, la stratégie bas carbone, n'est pas du tout évidente. Je prends un autre exemple qui est celui, par exemple, des mobilités. Ben, nous nous adressons au public. Il faut bien que le public arrive dans les festivals, il arrive dans les bibliothèques. Alors, il le fait en vélo, il le fait à pied. Hein. Toutes les bibliothèques, le premier réseau de diffusion culturelle, nous l'avons montré, sont à proximité de la population et atteignables à environ 10 minutes, un quart d'heure, en voiture d'ailleurs, et pas à pied. Mais il faut bien faire venir les gens, quand on a des festivals de niveau national, il faut bien les faire venir, ou alors renoncer à toute ambition de ce point de vue-là. Donc comment conjuguer la stratégie bas carbone, le fait qu'il faut peut-être être moins mobile, d'une certaine manière, être sobre de ce point de vue-là, de nos déplacements, avec le fait qu'il faut avoir du public, il faut attirer le public, il faut séduire le public, et ça traduit également par les mobilités. Autre exemple, qui d'ailleurs vient de faire polémique. Vous savez que nous avons pris une disposition législative, en même temps que la loi Darcos, avec la loi Robert, qui interdit de tarifer à zéro l'envoi de livres achetés par la voie d'Internet. Ça, c'est assez intéressant, parce que c'était fin 2021, et pendant tout le débat de 2021, nous nous sommes adressés à la représentation nationale avec un certain nombre d'arguments pour contrer le principal opérateur, Amazon. Alors, en particulier, en disant mais les objectifs de transition écologique. Ça n'a pas du tout pris auprès des députés et des sénateurs. Cet argument-là s'en fichait complètement. Je pense qu'aujourd'hui, on nous mettrait ça sur le tapis, ça serait très différent. En quelques années, les choses ont changé. Mais sur le fond, nous voyons un débat actuellement lancé par M. Le Maire et par M. Béchu avec les promotions du Black Friday en disant, mais enfin, le commerce à distance pollue plus que les magasins et que le commerce physique. Et il y a un vaste débat, Amazon s'est prononcé, mais qu'en savons-nous finalement ? Alors, il y a toute une série d'études, et là encore une fois la science est importante, mais qui montrent des résultats tout à fait contrastés, et on ne sait pas très bien. Et l'objectif de connaissance, de ce point de vue-là, est fondamental, et il nous manque encore assez largement, nous y reviendrons. Donc le ministère a lancé cette stratégie. L'homme qui vous parle a fait son chemin personnel. Et c'est un chemin qui est à la fois collectif et personnel. Et je pense d'ailleurs que cette question de la transition écologique, c'est aussi pour beaucoup d'entre nous un chemin personnel. Chemin collectif, pourquoi ? Parce qu'on ne m'a pas demandé mon avis. Comme tous les directeurs d'administration centrale, j'ai eu une formation obligatoire. Ça montre l'engagement du gouvernement. 4 jours. 4 jours pour un directeur, c'est pas rien. 4 jours complets. Je les ai suivis, les 4. Donc vous voyez. Et pourtant, j'étais un homme sceptique. Mais le doute, on l'a appris, c'est le début de la démarche rationnelle et scientifique depuis le XVIIe siècle, on le sait. J'étais un peu fatigué par ce discours alarmiste et volontiers millénariste. C'est-à-dire que notre pays s'est débarrassé des religions avec 2 siècles de combat, une nouvelle religion arrivait en prétendant la fin du monde. Et ce discours catastrophiste me fatiguait, je dois l'avouer. J'ai fait ces 4 jours de formation avec beaucoup de bonne volonté. Comme toutes les formations, il y avait du bon et du moins bon à prendre, mais j'ai pris le bon. Et je suis sorti avec un certain nombre de convictions et j'ai effectué mon chemin de ce point de vue-là. Première conviction, c'est qu'il fallait se documenter. Et nous sommes là entre bibliothécaires. Il faut lire. Et il faut faire cet effort-là parce que la bibliographie est énorme. Le choix de la bibliographie est compliqué. Vous avez beaucoup de gens qui sont très engagés. Et donc, les livres, qui sont des livres où on peut accéder à un certain nombre d'éléments de point de vue rationnel, ne sont pas si nombreux que ça. Donc, vous avez, de votre côté, un travail fondamental de ce point de vue-là, avec la sélection des fonds et de la mise à disposition de cette littérature auprès du public. Pluralisme, c'est également important. J'ai entendu un discours de conviction. Monsieur Payon, qui est le secrétaire général pour la planification, nouveau mot, planification écologique, disait à peu près 20 fois dans la minute le mot « c'est vertigineux ». C'est vertigineux, oui, parce qu'on souhaite transformer en quelques années une base économique qui a mis 150 ans à se construire. C'est pas rien, c'est vertigineux, en effet. Certes, il faut être volontaire. Il faut être aussi prudent, je dirais, même s'il faut être volontaire, et il faut avoir le pluralisme. Et j'ai un peu regretté dans cette formation que nous ne donnions pas les arguments, pas des fous de l'autre côté, mais d'un certain nombre de gens qui ont des arguments rationnels, pour que cela soit également un enjeu de débat. Il me semble important que cette question soit aussi un enjeu de débat et pas forcément un enjeu de croyance. Troisième élément que j'ai gardé de cette affaire, de cette formation intéressante, c'est qu'il faut être optimiste. Pardonnez-moi de le dire, mais mes collègues le savent, je suis optimiste. Alors d'ailleurs, depuis que je suis sorti de ces 4 jours, j'arrête pas de les bassiner pour dire « il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler ». Mais je me suis dit, finalement, toute cette économie que nous avons, nous l'avons construite grâce à la formation que nous donnions à nos jeunes, à ces générations d'ingénieurs qui ont trouvé des solutions pour adapter, pour sortir la population qui était la nôtre, il y a encore 50 ans, d'une certaine manière, une forme de misère dans laquelle elle était, pour une grosse partie de la population. Eh bien, cet effort que nous avons fait, pourquoi ne serions-nous pas capables, dans une forme d'optimisme, en tout cas, vers l'avenir, de le faire, d'inventer des solutions nouvelles, de nous adapter et d'avoir un mot d'ordre qui n'est plus celui de la croissance, dont on nous a un peu bassiné depuis ces dernières années, mais qui est celui de la sobriété. Pourquoi pas, effectivement, ce terme de sobriété ne devrait-il pas désormais s'impliquer à nous et nous engager de ce point de vue-là. Et donc ce chemin personnel, je l'ai fait, et je suis aujourd'hui tout à fait convaincu qu'il faut que nous le fassions de concert, et que ce que vous êtes, c'est-à-dire des directeurs, des directrices de bibliothèques, ont un rôle central à jouer du point de vue de l'embarquement de notre population dans un débat pluraliste sur ces questions. Alors que faisons-nous du point de vue concret, au-delà des belles paroles que je viens de vous sortir ? Nous avons, vous le savez, 2 secteurs d'activité. D'une part, la filière économique du livre, de l'autre, la lecture publique, les réseaux de lecture publique. Encore une fois, si nous adressons aux bibliothèques, je ferai une petite incursion du côté de la filière économique du livre, parce que tout cela, nous essayons de le concevoir d'une façon globale. Nous sommes face à une filière économique qui, par un certain nombre de côtés, comme beaucoup d'autres, est prudente. Elle est même parfois assez conservatrice. Alors, je ne dirais pas qu'elle est immobile, elle a fait des efforts, incontestablement. Les entreprises de l'édition essayent, parce que c'est leur intérêt, vis-à-vis de leur public, de s'engager sur des stratégies RSE. Le plus gros groupe qui a fait partie de lui récemment, Hachette, a mis même en place, vraiment, et a fait des efforts tout à fait considérables pour converger vers des objectifs qui soient plus en accord avec les stratégies gouvernementales. L'interprofession du livre, c'est-à-dire les éditeurs, c'est-à-dire les libraires, travaille également sur cette problématique de surpublication de trop de titres, qui à la fois correspond à nos objectifs de diversité, mais qui a un certain nombre d'effets pervers. Travailler sur la surpublication, cela veut dire quoi ? Cela veut dire intervenir sur un des secteurs les plus polluants, notre collègue nous l'a dit, celui du transport entre les entrepôts de distribution et les libraires. Et vous le savez que comme nous sommes dans le cas d'une économie de l'offre, eh bien, on envoie beaucoup de choses chez le libraire, il ne les vend pas, et il y a beaucoup de choses qui reviennent dans les entrepôts de distribution. Donc, une question d'inefficience économique et de pollution incontestable. Nous sommes en train de travailler à la capacité de l'interprofession à se réapproprier l'ensemble de ces données économiques issues des caisses de vente, de manière à permettre aux libraires, aux entreprises de distribution, aux éditeurs, à mieux calibrer leur tirage, leur retirage, à mieux calibrer également l'approvisionnement des librairies en fonction du goût du public et de la demande du public. Nous sommes persuadés qu'en mettant en place cet outil, eh bien, nous arriverons à des baisses tout à fait significatives des activités de distribution de lieux. Je donnerai un exemple. Le taux de retour actuellement moyen de la librairie vers les entrepôts de distribution par rapport à ce que les libraires reçoivent est de 25% des livres commandés. Dans un certain nombre de librairies qui sont particulièrement performantes, M. Mola à Bordeaux pour ne pas le citer, le taux de retour n'est que de 5%. Vous voyez que la marge est tout à fait considérable. Et pourtant, lorsque vous allez chez le Mola à Bordeaux, peut-être certains sont bordelais, vous pouvez difficilement sortir de cette librairie sans avoir acheté un livre, tellement l'offre est importante. Alors, nous suivons évidemment à la DGMIC l'ensemble de ces pistes, en essayant, vous l'avez vu, d'agir à la fois sur l'amont de la chaîne du livre, l'impression, les capacités à améliorer la précision des tirages, et vers l'aval, celui de la distribution. Encourager l'éco-conception des livres, de façon à préserver les ressources naturelles nécessaires à la fabrication, les encres, à limiter l'impact sur l'environnement. Encourager, c'est très difficile de le faire, mais nous essayons, avec le ministère de l'économie, la relocalisation en France des activités d'impression pour les circuits courts de production. Alors, l'industrie ne pollue pas beaucoup, c'est peut-être parce qu'on n'a plus beaucoup d'industrie en France. En tout cas, l'industrie de l'impression, elle n'existe quasiment plus pour le livre. Vous le savez, elle a été complètement délocalisée du fait des bas coûts salariaux en Chine, mais plus particulièrement dans un certain nombre de pays voisins de la France dans l'Union européenne. Limiter la surimpression et la surpublication, je l'ai dit. Et puis avec un certain nombre d'outils que nous souhaitons mettre en place. Le premier, pas forcément le plus simple, c'est celui de l'éco-conditionnalité de nos aides aux acteurs économiques de la filière, Centre national du livre, Direction régionale des affaires culturelles, les aides que nous donnons à la librairie ou à l'édition en région seraient conditionnées à un certain nombre d'objectifs à atteindre de ce point de vue-là, et une réflexion plus générale qui englobe l'ensemble de la filière et qui me fera faire la transition avec le secteur des bibliothèques, qui consiste à faire ce constat. Aujourd'hui, le livre est la seule industrie utilisatrice de papier à ne pas être intégrée et incluse dans la REP, responsabilité élargie des producteurs du papier. Pourquoi, me direz-vous, puisque nos collègues, par exemple, de la sous-direction de la presse, y sont passés d'une certaine manière et que l'ensemble des utilisateurs de papier le sont. Parce que nous disons, parce que vous dites aussi, et nous le percevons assez bien, le livre n'est pas un déchet. Eh oui, les gens ne jettent pas leurs livres. Ils ont de plus en plus de bibliothèques, donc ils ne savent pas quoi faire. Les bibliothèques ne sont pas super à l'aise avec tout ça, jeter le livre. Et puis, dans les entrepôts de distribution, on fait du pilon sans le dire. C'est quelque chose qui ne se dit pas, parce que finalement, le livre, c'est un produit culturel qu'on ne jette pas. Ça n'est pas un déchet. Il est fort probable que dans peu de temps, le livre sera un déchet. Ça l'est déjà, d'une certaine manière, et que les esprits évoluent de ce point de vue-là. Et que nous soyons obligés, par la force, de passer dans le cadre de cette responsabilité élargie des producteurs qui impose des obligations tout à fait fortes à ceux qui sont intégrés dedans. Eh bien, il faut devancer cette obligation. Et devancer cette obligation, ça veut dire nous organiser collectivement, bibliothèques, éditeurs, imprimeurs, pour que ce produit, qu'est le livre, qui reste un produit, même si c'est un produit pas forcément comme les autres, puisse être traité de sa vie jusqu'à la fin, et en particulier pour ce qui est du recyclage, avec les tonnes de production qui sont celles mises sur le marché chaque année, de façon à respecter un certain nombre d'objectifs bas carbone, et ceci sans que ce soit imposé par la loi. Nous sommes en train de travailler avec mes services sur cette capacité de notre filière, de nous tous, à avoir un REP sans REP d'une certaine manière. Et nous avons été tout à fait impressionnés de ce point de vue-là en visitant un certain nombre d'entreprises de recyclage, Paprec et d'autres, qui nous ont dit cela. Aujourd'hui, du point de vue de la collecte des déchets issus du livre, c'est zéro. Autrement dit, une entreprise comme Paprec collecte les poubelles jaunes avec le papier, mais pas du tout les livres issus de vos bibliothèques. Paprec collecte les déchets issus des imprimeries, mais pas du tout ce que l'édition passe à la benne chaque année en matière de surpublication. Premier problème. Donc tout ça échappe. On ne sait pas ce que ça devient. Deuxième élément, Paprec, avec le papier recyclé, avec la collecte de papier, produit la matière première à du papier recyclé. Paprec nous dit, il se trouve qu'aujourd'hui, imprimer sur du papier recyclé, c'est plus cher qu'importer du papier blanc, et que par ailleurs, les lecteurs sont habitués au papier blanc, et que la situation fait que nous avons des stocks d'invendus. Eh bien, toutes ces problématiques, nous allons les aborder en réfléchissant à ce que pourrait être une responsabilité élargie du producteur sans responsabilité élargie du producteur, autrement dit, sans l'obligation, en essayant de nous organiser nous-mêmes et d'organiser la filière. J'en viens donc aux bibliothèques, puisque les bibliothèques sont également centrales, hein, de ce point de vue-là. Elles sont centrales, on ne sait pas trop ce qu'elles font exactement, de leurs livres, elles les donnent à des associations philanthropiques. Grâce à la loi Robert, elles peuvent les donner à des sociétés davantage tournées vers le commerce, dès le moment où ces sociétés sont intégrées, vous savez, à l'économie solidaire. Nous avons vu se développer un certain nombre d'entreprises comme Amareal, Recycle-Livre, qui vendent d'ailleurs du livre issu, mais qui jettent également, et sans avoir la capacité à les utiliser, parce que c'est des livres inutilisables, une grosse partie des ouvrages qui leur sont donnés. Alors du côté des bibliothèques, 16 000 bibliothèques, point de réseau, effectivement, et ces bibliothèques sont concernées par toute cette problématique à différents niveaux. Ce sont des équipements publics, les bibliothèques sont concernées par les réglementations en matière environnementale. Ce sont aussi, j'ai dit qu'on avait 4 millions hein, de mètres carrés. Ça, quand j'ai dit que j'avais 4 millions à rénover lors de la formation, ça a été quelque chose qui a pris. J'ai été considéré comme quelqu'un d'intéressant. Elles ont aussi des acheteurs publics, elles achètent des livres, elles achètent d'autres produits d'ailleurs, évidemment, qui s'interrogent sur leurs pratiques de marché en la matière. Ce sont des lieux d'accès à la culture, au savoir, elles mettent à disposition, nous l'avons largement dit, de tous, les ressources qui nourrissent les connaissances scientifiques des citoyens et qui évitent à ses concitoyens d'aller dans des directions pas forcément voulues. Elles peuvent aussi devenir, parfois d'ailleurs, ce ne sont pas des forêts, mais enfin des refuges climatiques en période de forte chaleur, de grand froid, leur accès reste gratuit sur l'ensemble du territoire. Et donc les professionnels que vous êtes, et qui sont nombreux aujourd'hui, demandent, doivent être formés dans tous les aspects de leur métier pour faire partie intégrante de cette politique de transition énergétique. Ce thème est essentiel, il a été intégré dans le référentiel national des compétences en bibliothèque territoriale sur lequel nous travaillons depuis 2 ans, la manière dont la transition énergétique s'intègre dans les compétences et l'organisation du travail fera l'objet d'une intervention spécifique lors des prochaines rencontres nationales de la formation en bibliothèque territoriale au mois de mars 2024. Je ne sais pas où elles seront organisées, mais enfin certaines ont été organisées ici même à la BPI. En 2023, mes collègues et la DGMIC avons proposé à l'ensemble des partenaires bibliothèques, des collectivités territoriales, des universitaires, de travailler à une stratégie commune en matière de transition énergétique en bibliothèque. Les associations professionnelles, les établissements publics, les structures régionales pour le livre, un certain nombre d'experts, qui sont pour la plupart présents ici et en nombre aujourd'hui, ont répondu à cet appel. Et je souhaitais les remercier, car c'est du travail. Nous avons fait une dizaine de réunions thématiques pendant toute cette année 2023 autour de 4 grands thèmes. Premier thème, les financements, la réglementation. Alors cette réglementation, c'est un vrai sujet. Nous avons mené pendant toute cette année 2023, avec des collègues qui pourtant n'étaient pas très loin, au ministère de la Transition énergétique, une sorte de jeu de pistes pour les trouver, pour les identifier. Ils se cachent bien, en tout cas. Il n'y a pas plus difficile, en tout cas, que de trouver l'information et de travailler et de repérer les collègues compétents en la matière. C'est vertigineux du point de vue de l'organisation de l'État. La formation et compétences, la médiation et la communication, enfin les collections et la politique documentaire qui est au centre de, évidemment, nos préoccupations. Pour chacun de ces thèmes, un constat a été partagé. Et ce qu'on appelle des livrables, en termes technocratiques, ont été définis, sont en cours d'élaboration. À titre d'exemple, des fiches pratiques sur la réglementation, les financements, ainsi qu'un annuaire des acteurs engagés seront mis à votre disposition, de même qu'un kit de médiation pour la programmation culturelle des bibliothèques, ou encore une fiche pour aider les collectivités à élaborer une convention de réemploi avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il ne s'agit là que de quelques exemples de ces documents à livrer, issus de ce travail intense, important, que nous avons mené avec vous. Alors plus globalement, nous nous interrogeons sur nos pratiques dans des champs qui étaient jusqu'alors peu étudiés ou questionnés. Je l'ai dit, nous avons rencontré beaucoup d'acteurs du recyclage et du réemploi. Je citais Paprec tout simplement parce que est directrice là-bas, l'ancienne directrice de cabinet, M. Riester, ça facilitait d'une certaine manière le contact. Pour en savoir davantage sur l'activité de ces sociétés qui sont au centre de beaucoup de nos préoccupations. Nous avons eu des échanges avec des ingénieurs en charge de l'élaboration des normes dans le secteur immobilier. De nouvelles normes seront ainsi prochainement publiées s'agissant de la construction des bâtiments neufs, la fameuse RE 2020, sur lesquelles nos collègues au ministère ont bien travaillé, et s'agissant de la rénovation des immeubles, le décret tertiaire. Enfin, nous intégrons la dimension environnementale dans les travaux qui étaient en cours, comme l'élaboration des plans de sauvegarde des biens culturels. Et c'est également un engagement que nous avons pris auprès de nos collègues du ministère. Une restitution de ces différents travaux aura lieu au premier trimestre 2024. C'est un engagement de notre part. Il s'agira d'une étape qui doit permettre à tous d'avoir des points de repère et de pouvoir engager des actions concrètes dans vos collectivités. Il faudra que ce travail se poursuive dans tous les champs d'activité des bibliothèques et nous savons que nous pourrons compter sur vous pour ce faire. Cette salle est remplie et je n'ai aucun doute sur votre engagement complet de ce point de vue-là. Vous l'avez vu, nous sommes mobilisés sur l'ensemble de notre champ d'intervention, livres, lectures, bibliothèques, au sein même de l'engagement pris par la ministre auprès de la chef du gouvernement. Et je ne doute pas, en tout cas, qu'une journée comme celle que la BPI et l'Association des bibliothèques de France a organisée contribue pleinement à la prise en compte importante par nos métiers de ces problématiques. Alors, bonne journée, bons travaux, et je serai peut-être là une partie de la journée pour vous accompagner. Je m'en félicite. Merci.
Merci. La parole est maintenant à M. Benoît Léniel pour faire quelque chose. Présentation. Ah, vous avez un diaporama à nouveau ? D'accord.
Je suis professeur d'université, donc c'est très scolaire.
Vous avez un micro déjà ? Non, vous l'aviez. Je prends celui-là.
Oui, voilà. C'est bon ?
Oui.
Voilà. Alors, avant de commencer, je vous remercie pour votre témoignage personnel et votre cheminement de pensée. Et ce que vous avez dit est vraiment très important, c'est que malgré ce que je vous ai présenté, qui peut paraître un peu anxiogène, vous voyez que je garde aussi le sourire. C'est-à-dire qu'il faut rester quand même, il faut rester optimiste. Et les mesures sont tracées, c'est-à-dire il faut les mettre en place. On les connaît, le GIEC, je ne vous ai pas présenté, a fait toute une série de mesures et calcule les coûts des mesures et les gains de CO2 en termes... Et finalement, le changement climatique, il est là. Et comme vous l'avez dit également, il va falloir s'adapter. Et je pense que en France, on doit pouvoir s'adapter. Mais encore faut-il prendre des mesures concrètes rapidement. Voilà. Avant de positionner où on est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, rappeler, quand on parle justement de développement durable, de transition écologique, qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Parce qu'il y a une terminologie en plus très très hétérogène en France, que beaucoup moins hétérogène dans les pays anglo-saxons. La base, c'est ce schéma-là. Le développement durable, c'est essayer de trouver un équilibre entre trois piliers, l'économie, la société et l'environnement. Et quand on met en place des actions, il faut avoir en tête que tout ça doit être interconnecté. Le problème, comme vous le savez, vous l'avez dit, c'est que notre modèle économique et même sociétal s'est éloigné, a pris plus de place et s'est éloigné de l'environnement du fait du développement de nos activités humaines, qui a entraîné de plus en plus de contraintes en termes de surexploitation des ressources, accroissement des déchets, rejet d'émissions de gaz à effet de serre, étalement urbain, bétonisation, pour ne citer que ces exemples-là. Et donc, tout ceci détériore l'environnement au travers de pollutions diverses, d'épuisement des ressources, perte de biodiversité, de changement climatique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, certes, ça menace l'équilibre de l'environnement, mais ça menace aussi l'équilibre des sociétés et de notre économie. Pourquoi ? Parce que, pour citer quelques exemples, ça menace notamment la contribution de la nature aux populations, la sécurité alimentaire, par exemple, comme je vous l'ai dit, pour les ressources en eau, mais ça augmente les inégalités sociales, et tout ça peut être source de conflits. Il est donc important de mettre en place donc cette fameuse transition écologique qui est effectivement le terme générique et large, mais en réalité vous comprenez qu'il faudrait parler finalement de transition économique, sociétale et environnementale, mais c'est un peu long. Donc on résume ça en transition écologique et l'idée c'est d'aller vers un nouveau modèle économique et sociétal pour justement répondre aux grands enjeux environnementaux que sont le changement climatique, que sont la rareté des ressources, que sont la perte accélérée de la biodiversité, mais également tout ce qui est risque sanitaire. Les Nations Unies, comme vous le savez, se sont positionnées sur 17 ODD, avec un certain nombre, 17 objectifs de développement durable, avec un certain nombre d'indicateurs pour suivre les progrès, au nombre de 232, à l'horizon 2030. Alors, ces objectifs de développement durable, j'attire votre attention qu'ils ont été élaborés pour les États. Donc, quand on veut les appliquer à une autre échelle, il y a besoin parfois de les adapter. Et puis, ne pas les regarder en silo, surtout pas. Ils sont interconnectés entre eux. Et puis, il y en a certains qui ont peut-être plus d'importance que d'autres. Typiquement, les deux sur la biodiversité et celui sur le changement climatique. Ce n'est pas parce que je suis un climatologue, mais si nous ne tenons pas ces deux-là, on ne peut pas tenir les autres. Et donc, vous voyez, il y a de nombreux liens. Donc, changement climatique qui dépend aussi des ODD liés aux activités humaines. La biodiversité dépend de l'ODD sur les changements climatiques et indéniablement de tous les impacts humains, a une influence sur la faim et le santé et bien-être. Et puis, pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, comme le ministère de l'Éducation, l'ODD 4 est très important puisque c'est la formation à ces enjeux. Alors, les engagements pour répondre à cette transition écologique, la France a pris un certain nombre d'engagements au niveau européen qui sont schématisés ici. Donc des engagements d'ici 2030 qui sont moins 40% justement de consommation énergétique des bâtiments de l'État, moins 10% d'eau prélevée, moins 50% d'artificialisation nette des sols, et puis pour les gaz à effet de serre, j'en ai déjà parlé, une réduction de 55%. Et puis il y a aussi d'autres engagements, vous voyez, sur les cantines, 100% d'options végétariennes, les zéro plastique à usage unique d'ici 2040, et puis augmenter les aires protégées maritimes ou terrestres de 30%. Pour mettre en place ces engagements, il y a quatre stratégies principales qui ont été réactualisées ou sont en train d'être réactualisées. La stratégie nationale de la biodiversité, la stratégie nationale bas carbone, le plan national sur l'adaptation au changement climatique et la programmation pluriannuelle sur l'énergie. Et tout ceci est décliné notamment en termes d'action, ce que je vous ai présenté précédemment, auprès le secrétariat général de la planification écologique rattaché à la Première ministre. Alors, comment se positionne justement l'ESR, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, face à cet engagement? Bien évidemment, l'ESR se positionne et est un ministère important comme tous les autres, mais au travers de ces deux missions intrinsèques que sont la formation et la recherche. Parce que c'est par la recherche qu'on apporte, comme je vous l'ai dit précédemment, la connaissance scientifique, mais c'est aussi par la recherche qu'on peut proposer des scénarios de transformation et relever ces défis. En réalité, c'est travailler avec les scientifiques pour bâtir un consensus, c'est produire de la connaissance et des innovations pour construire les solutions. C'est aussi au travers de la formation préparer l'avenir avec un lien forcément privilégié avec la jeunesse et puis former aux compétences. Tous les métiers vont devoir intégrer cette transition écologique et il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître. Donc forcément, il faut former à ces nouveaux métiers. Alors dans l'ESR, on a cinq axes autour de la transition écologique, bien évidemment. Intégrer. Alors, c'est écrit TEDS. C'est bon. C'est que
j'allais vous demander. Oui.
Ouais. Mais j'allais vous le dire parce que j'avais même mis une slide au départ que j'ai enlevée où j'avais mis toute la terminologie et ça peut faire un peu peur. Le ministère a choisi avant que j'arrive une terminologie. Ça, on pourra en discuter. Mais c'est celle-là. C'est transition écologique. Là, ça va. Et pour c'est quand on fait une transition écologique pour un développement, ils ont utilisé soutenable. Et j'utilise donc soutenable, d'où TEDS. Mais ça pourrait être transition écologique pour un développement durable. Donc, intégrer la transition écologique dans la formation, dans la recherche, Bien évidemment, on en a parlé, vous en avez parlé précédemment, c'est aussi la réduction de l'impact environnemental. Alors ça veut dire quoi la réduction de l'impact environnemental? Ça veut dire réduction de l'empreinte carbone, de l'empreinte énergétique et favoriser la biodiversité. Et puis, n'oublions pas qu'il y a le RS, notamment dans la partie DDRSE, qui est la politique sociale et la qualité de vie au travail. Et puis, bien évidemment, l'axe en transversal, c'est que c'est bien beau, mais encore faut-il avoir une stratégie autour de ces axes, les lier, une stratégie et une gouvernance pour appliquer les mesures autour de ces axes. Alors, tout comme le ministère de la Culture, effectivement, on a établi notre feuille de route stratégique. Tous les ministères l'ont établi. Ça s'appelle pour nous le plan climat, biodiversité et transition écologique, qui a été remis à la Première ministre et qui pose le cadre du ministère de l'ESR. Donc le cadre, c'est assurer la production de connaissances, j'en ai parlé, c'est établir un cadre de commun et cohérent avec tous les acteurs, parce qu'il y a le ministère et puis il y a tous ces opérateurs, les universités, les écoles, les organismes nationaux de recherche, et il faut avoir un cadre cohérent entre tous ces opérateurs et le ministère. C'est un cadre de redevabilité vis-à-vis de la nation, et puis le ministère est en charge aussi d'animer une dynamique collective avec tous ces opérateurs. Alors, les chantiers du plan, j'ai mis simplement les chantiers prioritaires, il y en a d'autres. Les chantiers prioritaires, c'est sensibiliser et former les acteurs. Alors, qu'est-ce qu'on en parle comme qu'est-ce qu'il y a derrière les acteurs? Bien évidemment, il y a la formation initiale avec les étudiants, mais il y a la formation tout au long de la vie avec les personnels et les enseignants. Donc ça veut dire que vous parliez que c'était un peu vertigineux. Pour l'ESR, c'est aussi, comme tous les ministères, un peu vertigineux, parce que ça veut dire qu'il va falloir faire une transformation dans la façon dont on enseigne. Vous comprenez, dans les universités, dans les écoles, on enseigne un peu en silo sur ces sujets-là. C'est éminemment du transversal. Donc on doit adapter nos contenus, notre formation, et puis on doit former nos acteurs, parce que ça n'existe pas. Des formations actuellement, on ne peut pas suivre de formation à la transition écologique. On peut avoir une formation, parce que vous avez des experts qui vont vous parler du climat, d'autres de la biodiversité, mais vous n'avez aucun expert qui veut vous parler de l'ensemble. Voilà. C'est aussi, en termes de recherche, aller vers une recherche, là aussi, qui est très silotée en France, une recherche plus transversale. Mais ça suppose aussi revoir toute notre programmation de la recherche avec les appels à projets. Et puis, aussi, dans les objectifs prioritaires, on a demandé à tous les établissements, tous les opérateurs de l'ENR, les écoles, les universités, les organismes nationaux de recherche, d'établir un plan, un schéma directeur des DRSE, où ils doivent élaborer une stratégie, et donc il y aura des échanges avec le ministère, et ceci doit être élaboré en 2024. Et puis, le point aussi important, c'est calculer son bilan d'émissions de gaz à effet de serre. On s'est aperçu, quand on a regardé les bilans qui étaient effectués chez nos opérateurs, qu'on n'était pas très bons élèves, puisqu'il y en a au maximum 20%, alors que c'est obligatoire. Donc là, on va là plus qu'inciter à ce que les établissements mettent en place leur BGS, et on va aussi réfléchir, on va mettre en place un groupe de travail pour avoir une méthode commune. Parce que ce que vous avez dit, les BGS, le problème, c'est qu'il y a différentes... Normalement, ce qui a pignon sur rue, c'est l'ADEME. Mais comment... Il faut l'adapter quand même à chaque ministère, et notamment à l'ESR. Donc on va réfléchir avec un groupe de travail pour avoir une méthode commune, pour pouvoir comparer les choses. Et puis le BGS, il est important, parce que tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne savez pas vraiment où sont vos leviers. Même parfois, vous pensez qu'il faut actionner certains leviers, puis quand vous faites votre bilan, ce n'est peut-être pas ça qu'il faut mettre en place en priorité. Alors, juste pour terminer, où en est-on? Alors, il y a eu tout un travail déjà en termes de formation. Il y a eu une consultation qui a été menée par le ministère avec ses opérateurs. Il y a eu la journée, la deuxième journée de la TEDS du ministère à Montpellier la semaine dernière. Il y avait eu déjà en octobre à Bordeaux la première journée l'année d'avant, où la ministre avait annoncé qu'il fallait former à la transition écologique tous les étudiants de premier cycle pour la rentrée 2025. Donc il y a eu une consultation qui a été mise en place et on a une note de cadrage, vous pouvez aller la consulter, hein, qui a été élaborée, et de préconisation qui a été envoyée à tous les chefs d'établissement. Donc le 3 juillet 2023, et j'ai indiqué simplement ici les éléments principaux de cette note de cadrage. Tous les établissements, alors vous voyez, il y a du cadrage et de la préconisation. Dans le cadrage, c'est un enseignement de 30 heures minimum. Ça peut être en L1, L2, L3 ou sur les 3 années, c'est le minimum, ça c'est du cadrage. Le socle de connaissances, il faut absolument parler de changement climatique, biodiversité, ressources et de transition juste et d'équité sociale. Alors, il faut que ce soit associé à un référentiel de compétences. On laisse les établissements libres de ces référentiels de compétences, même si nous, on préconise le GreenComp, qui est le référentiel européen. Une certification qui est pour l'instant libre, mais qui doit être obligatoire, mais qui est libre pour les établissements. Pourquoi ? Parce que les établissements n'ont pas le même niveau de maturité. On s'est aperçu, donc il faut leur laisser un peu d'autonomie quand même. Les universités sont autonomes. Mais par contre, on préconise plutôt 3 crédits ECTS. Et puis, il y aura un pôle national de ressources pédagogiques qui sera porté par l'UVED, l'Université virtuelle sur l'environnement et le développement durable. Et pour terminer... Alors, c'est quelques questions. Alors, ce n'est pas exhaustif. C'est un travail qui avait été mené. J'avais participé l'année dernière à une journée sur, justement, la transition écologique pour les bibliothèques universitaires. Donc, j'ai fait un peu une liste de questions. Et j'ai vu que, voilà, il y a déjà des choses qui sont faites. Hein, voilà, mais l'idée, c'était... évidemment, ça a été dit, hein, les bibliothèques font partie intégrante, en tous les cas, nous, de l'écosystème de l'enseignement supérieur de la recherche et doivent être vraiment au cœur, hein, de la transition écologique et notamment sur la formation à ces enjeux. Et ça concerne l'ensemble des axes dont je vous ai parlé précédemment. Hein. Mais encore, pour bien se positionner, c'est bien beau de dire ça, encore faut-il bien saisir les enjeux, hein, pour bien positionner son rôle et puis définir comment on intègre cette transition écologique dans nos missions. Donc ça pose un certain nombre de questions. Hein. Comment se saisir de la transition écologique dans les services? Comment ça suppose revisiter les missions, hein. Comment revisiter les missions, hein. Vous avez parlé de l'offre documentaire, l'offre de service pour intégrer cette transition. Comment on mobilise les compétences, hein, et comment on développe de nouvelles compétences, parce qu'il faut des nouvelles compétences. Hein, et puis comment on articule... on s'aperçoit qu'en France, il y a beaucoup d'initiatives, hein, qui sont mises en place, c'est vraiment très intéressant. Je me souviens d'une présentation de France Université sur ces sujets-là, et avec le haut fonctionnaire au développement durable du ministère, quand on a vu la présentation, on avait l'impression quand même que c'était un peu un feu d'artifice, et en se disant, mais il y a un travail de concertation et d'articulation de toutes ces initiatives à mener. Hein. Voilà, j'en ai terminé. Alors, donc, si j'ai quand même la conclusion, qui est de dire, vous avez compris que vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est vertigineux, hein, donc c'est une transition, c'est clair, ça, c'est difficile, elle sera difficile à mener, mais elle est nécessaire. Il faut avoir une stratégie sans regret, parce qu'effectivement, si on a du regret, on ne va pas passer à l'acte. Donc, une stratégie sans regret. Sur ces sujets-là, on peut être leader. On est vraiment, il n'y a pas de vraiment la France, hein, est vraiment, on peut dire, on n'est pas encore assez engagé, mais la France et l'Europe sont quand même très engagés sur ces sujets-là. Et puis, quand on travaille sur la transition écologique, il faut mobiliser, fédérer, certes, mais comme je l'ai dit, il faut s'engager. Et puis, ça a été dit aussi précédemment, je l'ai dit plusieurs fois, il faut bien évidemment s'adapter. Merci.
Merci beaucoup.